sur la plage.
On a toujours dit du mal des femmes. C'est ce qu'on appelle un lieu commun et qui remonte à la plus haute antiquité. La femme, on l'a diffame, disait Lacan, avec son talent de jouer sur les mots pour faire entendre les messages secrets qui sont cachés dans la langue. Je dis la plus haute antiquité parce qu'il y a un grec nommé Hésiode qui fut le premier, semble-t-il, à parler de la race des femmes, à parler des femmes comme d'une race à part de celle des hommes. Et ensuite, dans la littérature grecque de l'Antiquité, on n'a pas cessé de parler des femmes en termes de semblants, de copies, mauvaises copies, bien sûr, de ruses et même de calamités. Donc calomnier les femmes, ça a commencé il y a très longtemps. Dans l'histoire de l'humanité, d'ailleurs, si on peut parler de quelque chose comme ça, le lien social s'est centré sur l'homme, sur le mâle. Tout le symbolisme social chante la gloire du masculin. On peut dire que quelque chose s'en est conservé très pur dans l'Église catholique. La femme a une place dans son symbolisme, mais en tant que la mère et en tant que la Vierge. L'idéal de la virginité, l'idéal de la maternité recouvre, voile, le lieu commun que je disais et qui perdure. Alors on peut dire, nous sommes les contemporains, c'est derrière nous. Et en effet, il s'est passé quelque chose qui fait que les femmes ont pu prendre la parole, se faire entendre, réclamer leurs droits. Et on permettra d'ajouter, entre parenthèses, que Freud n'y est sans doute pas pour rien. C'est en écoutant des femmes, et des femmes que personne ne voulait écouter, ni leur mari, ni leurs amants, ni leurs médecins, c'est en les écoutant qu'il a inventé la psychanalyse. Alors, c'est peut-être au XXe siècle ce qui s'est passé de plus important, à long terme, dans la civilisation qui est la nôtre, que cette affirmation du droit des femmes. Mais on doit aussi constater que ça reste toujours un enjeu de civilisation. Que faire avec les femmes? Est-ce qu'il faut les couvrir ou est-ce qu'il faut les découvrir? Est-ce qu'il faut les offrir au regard ou est-ce qu'il faut les dissimuler? Est-ce qu'il faut les laisser fréquenter les hommes ou les mettre à part parce qu'elles sont désirables, trop désirables et qu'elles introduisent une perturbation dans l'ordre du monde? Alors, chez nous, aujourd'hui, dans l'ensemble, on peut très bien dire que nous sommes au-delà du préjugé contre les femmes. Il n'en reste pas moins qu'on en est toujours à devoir réclamer justice pour les femmes. Alors de quelle injustice s'agit-il? Et pourquoi ce lieu commun est-il si commun? Pourquoi ce stéréotype est-il si insistant? Ah ben, à ce propos, il y a une anecdote que j'ai envie de vous raconter. C'est un moment qui est resté gravé en moi. Un épisode de vacances avec ma petite fille, Lucille. Lucille, donc, à 3 ans. Elle court sur la plage, devant moi, son grand-père, qui court après elle. Inutile de dire que je la laisse filer devant. Je ne la dépasse pas, je pourrais encore. Je veux lui faire plaisir. C'est sa victoire. Et puis, tout en courant, elle tourne la tête. Elle s'assure que je suis bien derrière, qu'elle est la plus rapide. Et je la vois qui jubile. Et voilà que je lui lance cette phrase. D'où vient-elle ? Tu as un trou dans ta culotte. Non, dit-elle. Mais si, c'est vrai. Non, répète-t-elle. Alors elle s'arrête dans sa course, elle se met à fondre en larmes et elle pleure de rage, non pas de désolation. Alors, qui a raison ? Du grand-père ? Ou de la petite fille. On peut très bien dire, le grand-père est impeccable. Il dit ce qui est. Il se trouve que ce fait est désagréable à la petite Lucille. Ça ne lui plaît pas. Elle ne le supporte pas. Et on peut dire, eh bien, il faudra qu'elle s'y fasse. Il n'y a pas simplement ce qui lui est agréable ou désagréable, il y a la réalité objective qui s'impose à tout le monde. Et tant pis pour elle, ce n'est pas son plaisir qui va faire la loi du monde. Et elle sera une grande fille quand elle supportera qu'on lui dise qu'elle a un trou à sa culotte quand elle a un trou à sa culotte. Et on peut dire, c'est ça l'éducation. D'ailleurs, ça a beaucoup préoccupé au cours de l'histoire l'éducation des filles. On peut dire, c'est ça. Devenir adulte, c'est accepter que ce qui est là, même si ça ne vous est pas agréable. Dans le jargon psychanalytique, on dit « le principe du plaisir doit céder la place au principe de réalité ». Cependant, est-ce bien Lucille, 3 ans, Lucille qui courait sur la plage, jubilante, est-ce bien Lucille la coupable ? Coupable d'être une enfant qui ne connaît que son plaisir. Est-ce qu'on ne peut pas se demander plutôt quel démon a poussé le grand-père à lui communiquer l'information désagréable « Tu as un trou dans ta culotte ». C'était la vérité, sans doute, au sens où c'était exact. Mais est-ce que c'était vraiment indispensable ? Là, sur la plage, quand elle mettait tout son cœur à courir, au moment où elle jubilait, est-ce que c'était vraiment indispensable de renseigner Lucille sur l'état de sa culotte, sur la présence d'un accroc qu'elle ne pouvait pas voir. On ne montre pas le trou dans la culotte de l'autre pour lui être agréable. On peut toujours dire que c'est pour lui rendre service. Ça, c'est toujours le meilleur alibi. Rendre service à l'autre. Et on sait bien que ça ne lui fera pas plaisir de savoir ça. D'ailleurs, pour en revenir à l'Antiquité, à l'époque, le porteur de mauvaises nouvelles, volontiers, on le mettait à mort. On le tuait pour le déplaisir qu'il vous apportait avec sa mauvaise nouvelle. Il y a des informations qui sont des moqueries. Il n'y a rien de pire qu'une vérité désobligeante. Pensez à la chanson du bon roi Dagobert, qui tourne autour d'une culotte. Pourquoi dit-on le bon roi Dagobert? Pourquoi est-il bon? Il est bon parce qu'il accueille avec bonne grâce les impertinences du bon Saint-Éloi concernant sa culotte. Mais, normalement, quand un roi met sa culotte à l'envers, on ne lui dit pas de la remettre à l'endroit. C'est plutôt toute la cour qui devrait porter la culotte à l'envers. Ça s'est vu. Si on se met à dire au roi de faire comme tout le monde, de remettre sa culotte à l'endroit, alors la Révolution française n'est pas loin. Lucile n'est certainement pas le bon roi Dagobert. Elle a 3 ans, elle ne se laisse pas faire. Elle ne prend pas bien du tout qu'on lui dise ce qui va et ce qui ne va pas avec sa culotte. À vrai dire, elle ferait plutôt penser à la reine de cœur dans Alice au pays des merveilles. La reine de cœur qui dit, quand un importun se présente, qu'on lui coupe la tête. Dans cette histoire, en tout cas, qui fut bien attrapé? Ce fut le grand-père. Le nigaud, dans cette affaire, il n'y a pas à s'y tromper. C'était bien moi. Bourreau d'enfant. Je jouais avec ma petite fille, on s'amusait, et voilà que je la faisais pleurer. Et croyez-moi, pour ce qui est de pleurer, Lucile, elle pleurait, hein. Elle poussait son avantage. Elle ameutait toute la famille. Et je sentais les regards désapprobateurs qui convergeaient sur moi. Le regard de ma femme, le regard de ma fille, mère de Lucile. C'est moi qui étais bien attrapé. J'avais dit la vérité, sans doute. Mais c'est pourtant Lucile qui était dans le vrai. J'avais dit la vérité. Mais ce n'était pas là la question. Et quelle était la question? C'est que pointer le trou dans la culotte, ça renvoie à autre chose. Lucile a 3 ans, tout juste. Mais elle est femme déjà. Et elle supporte mal qu'on lui désigne les accros qui la renvoient à la comparaison qu'elle peut faire avec son petit cousin qui s'appelle Auguste. Comparaison n'est pas raison, sans doute. On peut dire qu'il ne manque jamais rien à rien, que l'être est et le non-être n'est pas, qu'une privation n'a pas d'être, que c'est purement imaginaire, etc. Je vous en passe. Cependant, ce qui est imaginaire n'en a pas moins des effets bien réels. Et un trou dans la culotte, c'est un défaut. Et il s'est trouvé que, comme un butor, il a fallu que je mette le doigt sur le petit défaut. C'est ce qu'il ne faut jamais, jamais faire avec une personne du sexe, comme on disait jadis. C'est ce qu'il faut jamais faire avec une femme comme avec une petite fille. Malédiction, au sens propre. J'ai mal parlé. J'ai fait endurer à Lucile que j'aime, comme son grand-père. Je lui ai fait endurer la méchanceté de l'homme. J'ai visé, sans le savoir, bien entendu, sans le vouloir, un point douloureux, comme font les hommes, les maladroits, qui, sans le savoir, sans le vouloir, font souffrir les femmes, en ne disant pas ce qu'il faut dire et qui s'étonnent après de ce qu'ils ont provoqué. J'étais vraiment pas fier d'avoir aidé ma petite fille à pleurer pour se faire entendre, et comment elle se faisait entendre. Et j'ai pris la faute sur moi. Oh, j'aurais pu dire que j'avais raison, qu'il y avait bien un trou dans cette culotte et qu'il fallait qu'elle s'y fasse, que c'est ça grandir, devenir adulte, que c'est ça la maturité. Il y a dans la psychanalyse, même, des pharisiens qui croient que c'est ça une analyse, que c'est apprendre à se résigner à l'ordre du monde, à dire ce que tout le monde dit, qui croient que la psychanalyse, c'est une école de conformisme. Eh bien non. La psychanalyse n'enseigne nullement que l'adulte a toujours raison. Il ne suffit pas de dire que Lucille devra abandonner le principe du plaisir pour le principe de réalité et que quand la substitution sera faite, elle saura, comme vous et moi, qu'un trou est un trou, est un trou, est un trou. Faudra surtout qu'elle reste cet être de désir qu'elle a su être tout au long de l'été de ses 3 ans. Les larmes de Lucille, dont je me souviens encore, ont eu pour moi une valeur d'interprétation. Elles ont interprété en moi la présence d'un désir mauvais, qui a été signalé par Freud chez l'homme, le désir de déprécier la féminité. C'est pourtant un désir que j'avais analysé dans mon analyse. Mais néanmoins, j'ai dû constater, ce matin-là sur la plage, que ce désir pouvait reparaître subrepticement, de temps en temps, dans ce que je disais, sans y penser. C'est la leçon que j'ai reçue de Lucille, et sans doute, ça valait bien le cadeau que je lui ai fait.